Robert Houdot, la grande épreuve. Ingénieur, monsieur, combien l'atmosphère? 20 053, monsieur. Oh, ce n'est pas suffisant. Forcé. Bien, monsieur, bien. Ces paroles étaient échangées le lundi 4 mai de l'an 2363, entre le propriétaire de l'hydroaéronef France et l'ingénieur principal de cette splendide bâtisse, justement surnommée le roi de l'air, qui disputait pour la seconde fois la grande coupe présidentielle pôle Nord, pôle Sud. Lors de la formation des États-Unis d'Europe en 2212, il avait été décidé, on le sait, que le président de la Confédération et le siège de la capitale seraient désignés par le sort. On choisit d'abord parmi les hommes les plus considérés par leur science, leur vertu ou leurs multiples capacités, mais cette forme d'opérer engendra de multiples abus et fut la cause de grands froissements d'amour-propre. L'esprit national avait encore de la force à cette époque. On essaya ensuite du suffrage universel et majoritaire, dont on avait fut dit de faire l'usage dès 1999, où il dut céder le pas à la représentation proportionnelle. Oh, que ne vit semblable marchandage! L'histoire des élections dans les États-Unis d'Amérique ne relate pas pareil scandale. Les généraux vainqueurs faisaient défaut, puisqu'il n'y avait plus de guerre. Aussi, le Grand Conseil résolut-il de faire courir tous les 5 ans la coupe présidentielle. L'itinéraire choisi était pôle Nord, pôle Sud, par voie de l'air. Chacune des nations confédérées avait droit à un représentant. La première épreuve fut gagnée en 2359 par l'honorable W. Stewart de Londres sur son rapide England. Monsieur Georges Charbonnier, propriétaire de France, qu'un accident d'hélice avait immobilisé durant 3 heures, était second à 13 minutes 20 secondes 4 cinquièmes du vainqueur qui entra en fonction dès le lendemain matin. Les 5 années de présidence étant écoulées jour par jour, il fallait procéder à une nouvelle élection. Et le départ avait été donné aux concurrents le matin même à Percy City. Après un mauvais départ, le France prit bientôt le meilleur sur les 5 concurrents et non des moindres, Belgique, Néderlande, Spagna, Italia et Monaco. Passant à une vitesse de 240 km à l'heure et à une hauteur de 1200 mètres, kilomètres 13 centimètres, il avait pu voir en Irlande le vainqueur précédent en panne au-dessus d'Alger. Puis c'était l'Atlas L'Österreich et d'autres encore irrémédiablement battus, à moins d'accidents ou d'incidents improbables, car M. Charbonnier prétendait avoir prévu l'impossible. Lorsque le cap de Bonne-Espérance fut signalé aux France par un téléphotophone du commissaire des courses, un seul hydroaéronef, le Deutschland, se trouvait encore à 200 km avant lui. 200 km, parbleu, ce n'était rien. Cette distance pouvait être facilement comblée sans aucun risque pour la machinerie. Et M. Charbonnier était bien tranquille. Il se le disait, mais à force de se le répéter, il se sentait tout de même un petit peu inquiet. Et c'est pour cela que, par son spiote acoustique, il avait enjoint à son ingénieur de forcer les feux. Une sonnerie retentit tout à coup. Automatiquement, le casque de téléphotophone vint se placer sur la tête de M. Charbonnier, qui, depuis le départ, n'avait pas abandonné sa place de pilote. Et les mots suivants furent échangés et reproduits par la photographie. Allô? Contrôleur du Cap Charcot, France. Votre vitesse? 320, c'est exact. Et devant vous, Deutschland, à 90 km, 13 mètres. Merci, au revoir. Et le casque reprit sa place aussitôt. Monsieur Charbonnier appuya son pied gauche sur la pédale du script acoustique, qui se dressa instantanément à portée de sa bouche et de ses oreilles. Ingénieur, monsieur, combien l'atmosphère? 35 000. Oh, c'est pas encore assez. Forcé. Bien, monsieur. Ingénieur, monsieur. Que se passe-t-il sur la plaque de reproduction? Je constate que votre voix dénote une certaine inquiétude, imperceptible à l'ouïe. Mais, monsieur, répondez, je vous l'ordonne. Eh bien, monsieur, nous n'avons plus que 3 pelletées de radiocarbone. Vous vous trompez. J'ai prévu une provision suffisante, supérieure même à la consommation la plus certaine. C'est vrai, monsieur. Mais nous devions marcher qu'à une moyenne de 255 km à l'heure. Et depuis 10 heures, au moins, nous faisons du 320. Bon, vous êtes un imbécile, allez, forcez. Bien, monsieur, bien. C'était vrai. Monsieur Charbonnier, qui prévoyait l'impossible, oh, les Français sont toujours les mêmes, avait négligé de supposer qu'il pourrait rencontrer un adversaire digne de lui, en moins grave. Celle dont ses compatriotes furent les tristes héros en 1913. Persuadés en effet de leur supériorité en matière d'aviation, ils avaient crié une fois de plus à la trahison lorsqu'une flottille de zeppelins vint planer sur Paris le jour même de la déclaration de la guerre entre la France et l'Allemagne. Monsieur Charbonnier sentit que tout était perdu. Son ambition démesurée, servie par une valeur incontestable, ne pourrait donc jamais être satisfaite. Paris, qui restait encore le centre intellectuel du monde entier, ne deviendrait donc pas la capitale des États-Unis d'Europe. Et le magnifique château élevé par le président possible sur l'emplacement des anciennes Tuileries ne recevrait pas encore le premier magistrat du vieux continent. Un moment, il eut l'idée d'abandonner son clavier de direction et de broyer l'appareil et son équipage contre les glaces des steppes antarctiques, échoué au but. Mais vite il se ressaisit. D'un coup de doigt sec, il frappa sur la touche d'alarme. 2 secondes plus tard, les 11 mécaniciens étaient debout devant lui. « Ingénieur, que vous reste-t-il » fit-il comme combustible. « Oh, une pelletée, monsieur. »« Bien. Le Deutschland n'est plus qu'à 10 kilomètres, regardez. » Et sur l'écran, Bandilon, l'adversaire apparut subitement. « Il me semble... « qu'il tangue un peu, monsieur, » fit un mécanicien. « C'est juste, raison de plus. 3 de vos machines, les 8 autres à la coque et au fil de sûreté. Enlevez-moi les plaques de platine, les vis et écrous en or. La vaisselle, les bijoux, tout au foyer. Si c'en est assez, envoyez les appareils, tout, vous entendez tout. » Monsieur Charbonnier fut obéi. 29 minutes plus tard, le Deutschland était dépassé. Et après 1 heure encore de vol, un peu ralenti, il est vrai, l'hydroaéronef de France vint atterrir doucement au milieu de l'enceinte réservée aux représentants des nations européennes. C'est ainsi que, pour la première fois, un Français fut président de la puissante Confédération. Robert Houdot, la grande épreuve.